Bonjour et bienvenue sur l'Innovation by Ingérop, une série de podcasts proposés par le groupe d'ingénierie et de conseil Ingérop. Le groupe qui œuvre sur les enjeux majeurs pour bâtir dès à présent le monde de demain est présent en France et à l'international. Son développement constant s'appuie sur son indépendance actionnariale, son expertise technique et sa capacité d'innovation. C'est précisément sur l'innovation que le groupe souhaite mettre l'accent à travers cette série pour partager sa vision de l'innovation et les multiples facettes qu'elle prend au sein du groupe. Bonjour et bienvenue sur notre série de podcasts « L'innovation by Ingérop ». Je suis Sophie Rapatel, directrice de la communication du groupe Ingérop. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ola Nached, qui est architecte syrienne et doctorante au sein du laboratoire Géométrie, Structure et Architecture à Paris-Malaquais, et Xavier Seguin, coordinateur de l'innovation au sein de l'activité bâtiment en Ile-de-France. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Sophie.
Bonjour Sophie.
Alors, dans le prolongement de notre dernier épisode sur l'investissement d'Ingérop en recherche et développement, vous allez aujourd'hui nous présenter le travail engagé par toi, Ola, pour ta thèse, qui s'intitule « Évaluation de la construction additive en pierre crue, du matériau à l'architecture ». Alors, Ola, une première question. Pourquoi travailles-tu sur le matériau terre, s'il te plaît ?
En fait, la terre, c'est l'un des premiers matériaux de construction qui est jamais utilisé par l'homme. D'ailleurs, c'est le premier béton qui est fabriqué. Mm-hmm. Il date de milliers d'années avant de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que c'est la terre ? C'est mm-hmm. un pot de l'air, du sable, de gravier, cailloux, de limon et l'argile, qui est mm-hmm. le matériau liant qui va jouer le rôle de ciment ici. Et en fait, dans la culture de construction, on trouve que c'est un matériau qui est utilisé présent partout dans tout le monde. Mm-hmm. Et en même temps, c'était un matériau qui était préjugé.
D'accord.
Par son aspect, c'est la boue, quoi.
Ouais.
Par exemple, en France, il y a deux histoires qui sont à la fois qui ont donné en fait l'image de ce matériau et qui sont à la fois aussi contradictoires. C'est la maison de Baison en Bretagne qui est mal construite parce que c'est le matériau qui est le plus accessible aux paysans et que le matériau qui est le plus noble, comme la pierre, le bois,
c'est pour les cathédrales.
Exactement, des bourgeois, des maisons mm-hmm. des bourgeois aussi. En même temps, si on a regardé dans le cas de par exemple, la région de Rhône-Alpes, mm-hmm. on trouve des châteaux construits en terre qui est jusqu'à aujourd'hui présents, avec des travaux, des enduits, des colorations, de décorations mm-hmm. aussi à l'intérieur, qui est assez étonnant. Donc, c'est un matériau qui est durable, mais il faut le entretenir.
Bien sûr.
Aujourd'hui, dans le contexte actuel, le contexte de la crise écologique, le luxe ne peut pas être défini par le prix économique du matériau, mais plutôt par son valeur écologique. Le matériau le plus noble, ce sont les matériaux naturels qui a le moins d'impact sur l'environnement.
Sur l'environnement, oui.
Environnement, ouais. Mm-hmm. Donc, dans la thèse, moi, j'ai mis l'hypothèse que combiner une technique de fabrication qui est assez sophistiquée comme l'impression 3D mm-hmm. Avec un matériau qui est sain et archaïque comme la terre crue pourra nous donner une nouvelle solution écologique pour une architecture qui est durable et performante.
Qu'est-ce que tu vas développer dans ta thèse ?
Donc, dans la thèse, mon objectif, c'est d'explorer la méthode de construction en terre par la fabrication additive en profitant de la méthode de conception paramétrique. Mm-hmm. Donc, en premier temps, je travaille sur le développement rhéologique du matériau et aussi associé avec des additifs nécessaires pour augmenter la performance du matériau. Je travaille notamment avec le biopolymère mm-hmm. issu de cultures bactériennes. Il y a un travail aussi rhéologique sur la consistance de matériaux nécessaires pour faire l'impression 3D parce que il y a certains les matériaux doivent être pâteuses mm-hmm. Que je peux ajouter les couches successives sans avoir des déformations ou des effondrements au cours de construction
mm-hmm.
donc ça c'est un aspect. Et la troisième chose, c'est la proposer bénéficier de la conception paramétrique pour faire donner encore des valeurs à ce matériau, donner de nouvelles fonctionnalités, de faire des optimisations structurelles, thermiques, aussi traiter la question de durabilité et comment on peut, en jouant avec la forme, donner augmenter et favoriser en fait la durabilité du matériau.
D'accord. Alors Xavier, pourquoi Gérop a-t-il décidé de s'engager à travailler sur ce sujet qui est pour le moins émergent ?
Ouais, ça peut sembler un peu farfelu hein, qu'une grande ingénierie s'intéresse à la construction de terre, mais
surtout de la terre crue.
Ouais, complètement. Mais est-ce que tu as vu l'identité du dernier prix Pritzker d'architecture ? Alors le Pritzker, je te rappelle, hein, c'est une des plus grandes distinctions d'architecture, voire même...
C'est le prix Nobel de l'architecture.
Voilà, le plus important. Mais il s'appelle Diébédo Francis Quéret et son matériau de prédilection, c'est la terre. Mm-hmm. Et c'est pas anecdotique parce que depuis une dizaine d'années, on a quand même un nombre de Pritzker, on peut les citer, hein, Wang Shu, Alejandro Aravena, Lacaton Vassal français, qui illustre assez bien comment le barissant des préoccupations autour de l'acte de construire, il s'est déplacé et comment l'intégration en fait, de la dimension sociétale et environnementale s'est installée et sûrement pour durer. On est assez loin des préoccupations des années 90 sur l'iconographie. Cet architecte qui avait le Pritzker à ce moment-là. Un autre exemple, les récentes expositions au pavillon de l'Arsenal, qui donnent un peu le pouls quand même des préoccupations du milieu de la construction et de l'architecture en France. En moins d'un an, on a eu non seulement une première exposition qui s'appelait L'empreinte d'un habitat, qui s'intéressait en fait à l'empreinte carbone de ce que l'on construit, et une autre qui s'appelait Terra Fibra, qui était quand même directement dédié à la construction de terre, cette technique terre et tout ce qui est fibre naturelle. Et voilà, bon, c'est quand même un exemple que ça fait quand même écho aussi à tous ces objectifs qui ont été donnés par les pouvoirs publics sur la décarbonation du bâtiment. Donc soit en fait on fait semblant, on ne veut pas comprendre et puis on continue comme si de rien n'était, soit on se dit bon, on écoute. Et c'est sûrement l'occasion de faire des belles rencontres. Et ça a été le cas de Pierre-Alexandre Cotte, qui est donc notre directeur de structure chez de l'activité bâtiment à Paris, et qui a rencontré Ola l'été dernier, qui lui a présenté son sujet, sa proposition de sujet de thèse, et qui me l'a soumis, et sur laquelle on a été plutôt convaincus.
Du coup, Xavier, quel est l'intérêt pour un Gérop?
Alors, il y a plusieurs raisons qui nous ont conduit à accompagner Ola dans sa thèse. Alors, non seulement on pense que son sujet nous a séduit parce que il répond déjà à plusieurs enjeux quand même du plan stratégique d'un Gérop. Vision 25 que tu connais encore mieux que moi. Donc, plusieurs axes, hein, l'écologie, le digital, l'innovation, les talents. Je pense que Ola répond à coche toutes ces cases-là. Mm-hmm. Ensuite, nous, on va dire, dans l'activité bâtiment, on a aussi des axes de R&D. Mm-hmm. Et le travail de là permet non seulement d'alimenter ces axes de R&D, mais aussi de stimuler un peu l'imaginaire de nos collaborateurs sur ces axes-là. Mais au fond, je pense que ce qui nous a convaincus, c'est qu'Ola nous propose quand même un numéro d'équilibre assez intéressant. Oui, il y a un sujet qui est très pointu scientifiquement, technologiquement assez ambitieux. On parle de formulation, on parle de rhéologie, on parle d'impression 3D, donc ça c'est des choses quand même qu'en tant qu'ingénieur on connaît et ce qui nous anime, mais ce qui est déterminant quand même c'est qu'elle nous propose une vraie expérience esthétique autour du matériau de terre. Et ça c'est quelque chose d'important quand même parce que...
Vous travaillez avec des architectes.
Voilà, et les architectes sont extrêmement sensibles à ces sujets quand même de matérialité, mais pas que, c'est-à-dire que... Mm-hmm. Toi, moi, voilà, quand on va dans la rue et qu'on regarde des bâtiments, ce qui nous marque, c'est l'esthétique du bâtiment, c'est les matériaux, sa matérialité. Et autour de la terre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est plein d'a priori. On disait ah oui, mais c'est fragile, ça va, ça casse, ça sale, ça tâche. Mm-hmm. Et en fait, quand Ola nous a présenté ses premiers travaux, ce qui frappe, c'est la sensation qu'on peut avoir en fait à toucher le matériau. On le prend avec délicatesse, les briques qu'elle imprime. Et ça, c'est la première chose. Il y a toute la précision autour aussi du travail de l'impression 3D. Mm-hmm. On est capable de faire des motifs extrêmement précis, de la rugosité, qui vont contribuer en fait d'ailleurs aussi à l'esthétique du matériau, mais aussi à sa capacité à apporter, à sa capacité aussi à durer dans le temps. Mm-hmm. Une autre chose qui est marquante, c'est Ola cultive on a parlé tout à l'heure, mais de la cellulose bactérienne pour être remplacée le ciment dans l'alliage qu'elle fait entre la terre qu'elle imprime. Mm-hmm. Et ça donne des disques de couleurs qui sont aussi extrêmement esthétiques et qui
donnent des idées visiblement.
Voilà, exactement. Voilà, bon, en tout cas, c'est ça qui nous a convaincu. Enfin, c'est entre autres ça qui, je pense, qui a fini de nous convaincre que, bah, d'accompagner Ola dans son aventure de thèse, en l'aidant, bah, à la fois, bien sûr, financièrement, mais aussi, et surtout, en fait, intellectuellement, de l'accompagner dans son parcours de développement. Après, on espère que c'est que le début de l'histoire, puisque la thèse de là, donc, elle s'intéresse, dans un premier temps, à tous ces aspects de, bah, est-ce que le matériau peut fonctionner pour faire de la structure, pour, est-ce qu'il tient. Mais il y a un deuxième aspect qu'on voudrait aussi explorer, et c'est le côté durable. Une fois que le matériau tient, est-ce que dans le temps, il dure aussi longtemps? Est-ce qu'il a les mêmes performances?
5, 10, 20, 30 ans.
Exactement. Et pour ça, en fait, on a, on essaie de, oui, là, de rêver plus grand, et donc du coup, on participe à la fois là avec son laboratoire et son directeur de thèse, Robert Leroy, et Ingérop, en tant que, que partenaire privé. On a intégré un consortium de recherche, et on a fait une proposition pour un appel national à la recherche scientifique, donc un ce qu'on appelle un ANR, qui vise à obtenir des financements pour pouvoir explorer cette thématique de la durabilité, donc du matériau terre, et plus spécifiquement appliqué en fait à tout ce qui est restauration de patrimoine.
D'accord.
Résultat.
Alors du coup, pourquoi recourir à la recherche académique et plus spécifiquement à un doctorat?
Oui, c'est vrai que c'est un exercice qu'on ne fait pas forcément très souvent dans le groupe Ingérop. Je crois qu'aujourd'hui, on a 4 ou 5 thèses qui sont en cours quand même. Donc
c'est pas mal.
On espère que ça sera amené à durer dans les prochaines années. Alors pourquoi? La première chose, la plus évidente, c'est que pour nous, le sujet du matériau-terre, c'est un sujet qui est éminemment scientifique, avec tout ce que ça implique. Et croyez-moi, j'ai assisté à une conférence de 2 jours sur le sujet, la conférence de l'association RILEM au mois de mars, et on est sur des problématiques, c'est du solide, quoi. C'est pas quelque chose qu'on trace sur un coin de table. Et ça répond quand même à notre volonté. On veut apprendre sur ce matériau, on veut pas se contenter, entre guillemets, de faire du greenwashing sur on a mis un mur en terre sur notre projet, donc on est vertueux. Non, on veut comprendre comment il fonctionne, et pas seulement sur sa résistance mécanique, mais sur tous les aspects qui entourent le matériau. Voilà, ça c'est le premier aspect. Ensuite, je pense qu'il y a une autre chose qui est primordiale en fait, dans le choix du format de la thèse, c'est qu'il nous permet un peu de sortir aussi du carcan des projets. Alors, c'est un carcan réglementaire, c'est le fameux triptyque, réglementation, coût, délai. On sait faire de l'innovation à la marche sur nos projets, sur des solutions un peu éprouvées, mais on a du mal en fait à s'autoriser à penser des nouvelles solutions. Et la thèse, c'est un moyen de libérer sa pensée et en fait de prendre son temps, même si Ola va quand même très vite dans ses travaux. Ça nous permet de prendre notre temps et de s'autoriser en fait à explorer des voies qu'on aurait tout simplement, je pense, écartées d'entrer dans des problématiques de projet avec des délais très serrés. Puis enfin, ça c'était un peu la cerise sur le gâteau, on ne s'y attendait pas forcément, mais en fait on se rend compte que travailler avec le milieu académique et plus spécifiquement les thèses, c'est aussi l'occasion de découvrir, on va dire, de redécouvrir une méthode de recherche et développement qui est scientifique et rigoureuse, qui est un petit peu absente quand même de notre quotidien, puisque comme je dis, tout va assez vite, tout est assez normé, avec des ABAC, des référentiels. Et pour juste prendre un exemple, effectivement, l'exercice de l'état de l'art est un exercice qui est souvent un peu absent du... du quotidien de l'ingénieur, et la thèse nous permet en fait de retrouver, de renouer avec cette...
Et d'avoir un peu de fraîcheur.
Voilà, de renouer avec cet exercice vital-là.
Dernière question pour toi, Ola. Quel est l'apport d'Ingérop dans ta thèse?
Oui, pour moi, c'est initialement que mes idées dans le laboratoire, comment je peux vraiment les réaliser, le passage de cette échelle de recherche expérimentale à l'échelle de la recherche impliquée, et que les idées que peut-être je vais valider pendant ces 3 ans sera réalisée, peut-être un pavillon qui sera installé quelque part, un projet qui sera la preuve de la faisabilité de l'approche scientifique que j'avais construite pendant cette période-là. Donc, de réaliser qui apparaissent impossibles, ce qui aussi, des fois, avait été vendu par le MEE au moment de concours. Donc, c'est tout
ces
aspects-là qui m'intéresse, et aussi la richesse de la différente, ici, ingénieur, qui va enrichir aussi mon parcours de recherche.
Oui, il y a une chose importante qu'on va discuter avec Pierre-Alexandre, c'est cette capacité en fait, à faire sortir les très bonnes idées du laboratoire pour que le rêve de l'architecte au moment du concours, en fait, se réalise parce qu'on a techniquement, scientifiquement, en fait, les moyens de le faire. Et c'est ce que je disais avant, en fait, c'est se donner les moyens de réaliser ces rêves-là à travers des méthodes qui, en appelant des méthodes qui sont très scientifiques.
Merci en tout cas à tous les deux. Merci à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode de la série L'innovation by Bergerop consacré à la thèse conduite sur la terre crue comme matériau de construction. Lors de notre prochain épisode, nous découvrirons comment innovation et recherche sont désormais des traditions établies en prenant l'exemple cette fois-ci d'une de nos filiales, Arcora. Merci et à bientôt.
Merci.
Merci beaucoup, Sophie. Merci.